Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, je ne sais pas si ce que je vais vous dire est plutôt un sermon ou une causerie, parce qu'il y a de la doctrine à vous donner, mais en même temps, il y a quelque chose de très profondément spirituel. Nous sommes dans l'étude des œuvres de Dieu, nous avons vu les anges, et puis après les anges, les démons, enfin qui sont des anges. Et maintenant, saint Thomas d'Aquin étudie l'œuvre des six jours, c'est-à-dire le récit de la Genèse. Première remarque à vous faire à propos du récit de la création dans la Genèse, c'est que ce récit est historique, divinement inspiré et vrai. Il est divinement inspiré, comme toute la Bible, donc il ne peut pas y avoir d'erreur. Il est vrai et historique. Cela, l'Église l'a toujours cru, les fidèles l'ont toujours cru, sans difficulté, jusqu'aux contestations des protestants, de la fausse science moderne, des libéraux, des modernistes, auxquels l'Église a répondu par la voix de Léon XIII dans son enseignement sur l'Écriture sainte, par l'enseignement antimoderniste de Saint Pidis dans le décret Lamentabili, par la réponse de la Commission biblique pontificale. C'est très important cela parce que, puisque le récit est vrai, si au contraire on en fait un récit imagé, alors on ne connaît plus les origines de l'homme, on peut remettre en doute même Adam et Ève, on remet en doute toute la doctrine du péché originel, donc toute la blessure chez nous, qui trouve son origine dans le péché originel d'Adam et Ève, donc la nécessité de nous convertir, de faire des efforts, on arrive à une religion bonasse, sans respect de Dieu. Et c'est cela qu'ils veulent. À l'origine des erreurs, vous avez la plupart du temps un vice, un péché, une volonté de vivre dans le péché. Donc les mots et les phrases de la Genèse doivent être prises dans leur sens propre et non dans un sens métaphorique, poétique ou imagé. La bonne interprétation va nous mettre au sommet de la révélation divine, entre deux ravins, à gauche le ravin des mécréants, rejoint par tous les modernistes, les protestants libéraux, etc., qui réduisent le plus possible l'action de Dieu, et pour cela prennent la Genèse pour un récit poétique, voire même pour le reflet des légendes des païens. Parce que les païens, évidemment, ont parlé de la création, mais c'est l'inverse. Le récit des païens est un pâle reflet, un pâle reste très déformé du récit des origines qui a été transmis par Adam et Ève à leurs enfants et de là à tous leurs autres enfants. Mais quand il y eut la dispersion de l'humanité après leur audace orgueilleuse de la tour de Babel, non seulement ils ne se comprirent plus parce qu'il y eut plusieurs langues, mais en plus ils n'eurent plus le sens de la divine révélation. De toute façon, il suffit de lire les récits des païens pour voir que cela n'a aucune élévation d'esprit, c'est matériel quand ce n'est pas gravement vicieux. Oui, il est très facile de lire ces récits. Les protestants les ont publiés, ils y tiennent tellement, quand ils sont décryptés à partir de l'écriture cunéiforme. Donc je vous disais, tout cela sont à gauche. À droite, on a ceux qui prennent les mots au pied de la lettre sans chercher le sens réel et profond. Ils n'enseignent pas trop d'erreurs, ceci, il faut bien le dire, quant à l'origine de l'homme. Ils en enseignent d'autres, par exemple la terre qui est plate, ou des stupidités de ce genre-là. Bien, une fois que nous avons dégagé le terrain des erreurs, mais c'est important parce que ces erreurs-là, vous les retrouvez partout. Mais je n'ai pas besoin d'insister plus puisque je vous ai fait la démonstration de l'existence de Dieu, je vous ai parlé de la création, je vous ai même fait une causerie sur le Big Bang, donc ce n'est pas la peine d'insister. Après cette introduction, l'interprétation catholique est vraie de la Genèse. Vous avez deux écoles catholiques, hein, qui toutes les deux respectent le texte et qui cherchent à le comprendre. Tout d'abord, l'ensemble des pères de l'Église, d'une part, et saint Augustin, d'autre part. Saint Augustin est tout seul, mais étant donné son poids, c'est un des plus grands pères de l'Église. Saint Thomas d'Aquin et toute l'Église avant lui lui donnent un crédit exceptionnel et lui tout seul fait le poids avec tous les autres pères. Mais l'Église n'a jamais tranché, donc je vais vous donner les deux. D'autant plus qu'il y a peu de différence entre les uns et les autres, mais il y a une élévation de pensée, une profondeur dans la pénétration du mystère. Plus chez Saint Augustin. Les premiers, donc l'ensemble des pères de l'Église, répartissent l'œuvre de la création sur les six jours, c'est-à-dire sur six périodes, tandis que saint Augustin prend le mot « jour » dans un sens purement spirituel. Pour lui, la lumière, c'est d'abord la lumière intellectuelle, puisque la lumière est d'abord dans l'esprit avant d'être dans les choses. Je vais vous l'expliquer. Les deux écoles se rejoignent évidemment sur l'essentiel, puisqu'elles sont toutes les deux catholiques. Dans le récit biblique, il faut distinguer l'œuvre de la création elle-même, Dieu créa le ciel et la terre. Deuxièmement, l'œuvre de la distinction des choses sur trois jours. Dieu distingue les astres, la terre, la mer, etc. Et troisièmement, l'œuvre d'embellissement les trois jours suivants, lorsqu'il crée les oiseaux, les animaux, et puis surtout l'homme, le dernier jour. Et enfin, quatrièmement, le jour du repos de Dieu, qui est le septième jour. Premièrement, l'interprétation de saint Augustin. Il estime que la Genèse ne peut pas passer sous silence la création des êtres les plus parfaits, les anges. Il estime donc que lorsque Dieu crée la lumière avant d'avoir créé les astres, parce que ça c'est un problème, effectivement, la lumière existe avant que les astres existent. Bon, c'est pas impossible, hein? Enfin, il faudrait expliquer d'où elle vient à ce moment-là. Il estime donc que lorsque Dieu crée la lumière avant d'avoir créé les astres, il s'agit des intelligences lumineuses des anges. De fait, cette interprétation est tout à fait conforme au sens du mot « lumière ». On dit que telle doctrine a été une lumière pour l'âme. On dit que la lecture de tel livre a été une lumière pour quelqu'un qui se posait des questions. On dit qu'on a l'esprit illuminé par une belle doctrine. On dit encore plus souvent que l'on voit, or on ne voit que des lumières, hein, des lumières et des couleurs. On voit bien pour parler de l'intelligence et de la pénétration spirituelle des choses. Pour le dire simplement, il faut imaginer Dieu parlant avec les anges six jours de suite, mais des jours angéliques si vous voulez. Les anges ne sont pas dans le temps. Des jours angéliques, c'est-à-dire qu'il y a une première explication du récit qui arrive à une certaine perfection, puis après ça, on reprend une deuxième journée, la suite du récit. Ainsi, Dieu, selon saint Augustin, a fait avec les anges six jours de suite. Et Dieu leur explique son œuvre, il leur fait admirer son œuvre. Et nous avons, à ce moment-là, selon saint Augustin, ce privilège extraordinaire, enfin, qui est commun avec tout ce que Dieu nous révèle, mais ce privilège extraordinaire que Dieu nous a transmis, cette conversation qu'il eut avec les anges, pour nous expliquer ce qu'il a fait. Pour appuyer un petit peu plus l'usage du mot « vision » ou « lumière » dans un sens spirituel, vous avez la béatitude, bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Donc si Dieu lui-même a utilisé le terme voir dans le sens intellectuel et spirituel, à plus forte raison, le pouvons-nous dans ce qui nous occupe ici. Selon saint Augustin, par conséquent, toute la création est simultanée dans le temps, et cela résout le problème de l'âge du monde et résout sans difficulté l'accord des six jours avec l'âge du monde. Toute la création est simultanée, mais c'est un peu comme le professeur qui prendrait six jours pour expliquer l'œuvre faite par Dieu. Les autres pères de l'Église répartissent la création sur six jours, et en soi, cela ne cause aucune difficulté, mais les découvertes modernes sur l'âge du monde, l'âge des montagnes, etc., ont créé une petite difficulté. C'est là que je vous disais que ceux qui sont à droite tiennent pour les six jours de 24 heures, et donc les Alpes comme le Massif central auraient 5 ou 6 000 ans plus 6 jours. Enfin non, il faut ajouter les 2 000 ans de christianisme, auraient donc 7 ou 8 000 ans plus 6 jours. Je dis 7 ou 8 000 parce que le texte grec parle de 6 000 ans à peu près pour la création de l'homme, 5, 6 000. Et le texte latin parle de 4, 5 000. Je n'ai pas les détails et ça ne vaut pas la peine que j'aille perdre du temps à regarder cela en détail. Parce que justement, je veux vous montrer avec saint Augustin que ce qu'il faut voir, tiens, voyez, le terme voir utilisé dans le sens intellectuel, qu'il faut voir les choses dans leur profondeur spirituelle, leur nature d'utilité pour le salut de l'homme, et non pas dans leur matérialité. Non pas que la matérialité soit inutile, mais ça c'est le propre des sciences secondaires, et cela ne regarde pas le salut de l'homme, et encore moins, bien entendu, le salut éternel, la rédemption. Je vous disais donc cette difficulté d'admettre que l'œuvre de la création ait été faite en 6 jours. L'Église a répondu, notamment par la bouche de la Commission biblique pontificale, mais pas seulement, à savoir que jour en hébreu, qui se dit yom, signifie également période, et que ce sont 6 périodes, lesquelles d'ailleurs peuvent se chevaucher plus ou moins. Après avoir vu dans la première partie saint Augustin et les autres pères, il faut voir les œuvres des 6 jours, ou l'œuvre de chacun des 6 jours, ce n'est pas difficile. Le premier jour, la lumière, donc Dieu crée les anges. Pour les autres pères, le soleil, mais dans un état primitif, puisque la lumière est créée avant le soleil. Alors il y a un soleil dans un état primitif, et puis après ça, dans un état parfait. Le deuxième jour, le firmament. Pour saint Augustin, la terre désigne ce qui est stable, les eaux ce qui est instable. Donc pour nous, pour vous, mes bien chers frères, ce qu'il faut retenir de ces deux premiers jours. Le premier jour, Dieu crée la lumière, c'est-à-dire qu'il illumine nos esprits. Le deuxième jour, Dieu crée le firmament, et les eaux qui sont instables et la terre qui est stable, c'est-à-dire que nous sommes dans un monde instable destiné à la stabilité éternelle, de la béatitude éternelle. Troisième jour, le rassemblement des eaux et la production des plantes. Il n'y a rien de particulier. Rassemblement des eaux, donc dans le ciel et dans la mer, ce qui dégage la terre ferme. Le quatrième jour, on est au début de l'œuvre d'ornementation et Dieu crée les luminaires. Pourquoi crée-t-il les luminaires? Pour les hommes. C'est dit dans le texte de la Genèse. Voici l'explication que donne saint Thomas d'Aquin. Premièrement, il est utile pour la vue qui dirige l'homme. Le soleil est utile pour la vue qui dirige l'homme dans ses activités et qui est extrêmement nécessaire pour lui faire connaître les choses. À cet égard, le texte dit, pour qu'il brille, les luminaires, hein, le soleil, la lune, les étoiles, etc., qu'ils brillent dans le firmament et qu'ils éclairent la terre. Cette création, et donc ce que fait Dieu, est une manière très simple de faire connaître à tous les hommes, avant même qu'ils aient réfléchi sur la profondeur et la portée de leur vie spirituelle, leur faire comprendre que leurs œuvres doivent être lumière et non pas ténèbres. C'est-à-dire vrai, juste. Deuxième raison des astres, assurer les phases du temps qui écartent l'ennui, qui conservent notre santé, qui font pousser les produits nécessaires à notre nourriture. Ce qui n'aurait pas lieu si c'était toujours l'été ou toujours l'hiver. Et voilà pourquoi le texte sacré ajoute afin qu'il soit pour les temps, les jours et les années. Et cela nous rappelle l'instabilité de notre monde présent. Il y aura au ciel un jour éternel, ou hélas un enfer éternel. Et ici, l'homme n'est pas maître des choses. Tous les soirs, il doit s'endormir, et donc il sait très bien que pendant la nuit, il n'est pas maître des choses. Voilà pourquoi les grands malades ont peur de s'endormir. Ils ont peur que pendant la nuit, la vie leur échappe, alors qu'ils ont l'impression que pendant la journée, ils arrivent encore à la conserver. Et on ne peut pas tricher avec le jour et la nuit. L'homme moderne a cherché à tricher en inventant l'électricité qui produit de la lumière artificielle. Loin de moi de vous dire que la lumière artificielle soit mauvaise, mais il est une évidence que seuls les saints savent utiliser sans détriment pour leur âme les choses matérielles, tandis que ceux qui ne sont pas saints se brûlent les ailes et avec la lumière artificielle font n'importe quoi dans la nuit qui n'a pas été prévue pour cela. Troisième raison des luminaires, faire connaître quelles entreprises et quelles affaires sont opportunes du fait que les luminaires du ciel nous renseignent sur la pluie, le beau temps et se prêtent à des entreprises différentes. C'est pour cela que le texte dit « afin qu'ils soient des signes ». Et sur ce qui est opportun, pour obéir à la loi de Dieu, pour comprendre la volonté de Dieu qui passe par la pluie, le beau temps, etc. Et ça, c'est une des premières éducations de l'homme, de l'agriculteur. Or, l'homme est quand même a été prévu par Dieu agriculteur plus que citadin. On n'entre pas dans le champ n'importe quel jour pour y faire n'importe quoi, ni même à n'importe quelle heure de la journée. Cinquième jour, la création des poissons et des oiseaux. Sixième jour, la création des animaux et de l'homme. Et étant donné sa dignité, la création de l'homme sera détaillée quelques chapitres plus loin. Voilà, le septième jour, tout est parfait. Il y a deux perfections, celle du départ, la nature, et celle de l'arrivée et la fin, c'est-à-dire la béatitude éternelle des hommes. Il s'agit ici de la première. C'est-à-dire que l'homme a tout ce qu'il faut pour parvenir à sa fin, mais que nous ne sommes pas encore parvenus à l'éternité. Mais comme Dieu s'arrête de produire le septième jour, il consacre ce jour, d'abord il le bénit, il le bénit de manière à bénir les entreprises des hommes qui vont durer jusqu'à la fin du monde. Et puis surtout, il le sanctifie et ce jour sera consacré au Seigneur. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est un commandement de Dieu. Un jour par semaine est consacré au Seigneur. Ce jour-là, on ne travaille pas la terre, on ne travaille pas à des choses matérielles, serviles. On ne s'occupe que de choses qui élèvent l'esprit. Et qui notamment nous occupe de Dieu. Pour ce qui est de la création de l'homme, je ferai comme saint Thomas d'Aquin, je vous en parlerai un peu plus tard. Je vous dis simplement ici quelques vérités absolument fondamentales. L'Église enseigne, et donc la Genèse, et l'Église le rappelle, que Dieu créa un homme et un seul, puis son épouse Ève, et elle seule, et que toute l'humanité descend de ce premier couple. Cela est de foi, et comme je vous le disais, sans cela, la doctrine du péché originel n'a plus de fondement, la rédemption par Jésus-Christ non plus. Comment expliquer alors la différence physiologique des races? L'Église n'en dit rien, elle n'a rien à en dire, et très honnêtement, je ne pense pas que ce soit très important de s'attarder là-dessus. Le bon Dieu nous a laissé dans l'ignorance de beaucoup de choses, même purement naturelles, même corporelles, et nous devons avoir l'humilité de reconnaître que nous ne savons pas tout, et puis la sagesse de reconnaître que ce n'est pas utile de savoir tout cela. Ce qui est utile, c'est la seule science, c'est la science du salut. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite de bien fêter le Saint-Rosaire le 7 octobre, mais demain dimanche, c'est ou aujourd'hui dimanche pour ceux qui m'écoutaient, c'est la solennité du Saint-Rosaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.